Religion du monde. Geneviève Delru.
Nous n'avons pas peur. Et malgré tout ce qui se passe, les gens viennent volontiers et en masse les jours des fêtes. Mais on se demande toujours à qui sera le tour, quoi. On ne sait jamais.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce dimanche s'achève à Luxembourg et demain lundi à Rome la Nuit des Témoins, organisée chaque année par l'AED, l'aide à l'Église en détresse, pour sensibiliser croyants et non-croyants à la persécution et à la discrimination des chrétiens à travers le monde. Cette année, l'AED a organisé en France 4 veillées à Montpellier, Rouen, La Roche-sur-Yon et Paris, avec 3 grands témoins venus d'Égypte, d'Algérie et du Mexique. L'AED est une fondation pontificale qui intervient dans 150 pays. En France, l'AED est dirigée par Marc Fromager.
La 10e édition de la Nuit des Témoins, ça reste un temps fort où on rend hommage aux prêtres religieux, religieuses assassinés dans le courant de l'année, avec des témoins qui, cette année, viennent de 3 pays différents. On a l'Égypte pour avoir un témoin du Proche et Moyen-Orient, qui reste une zone extrêmement importante pour nous, où nous sommes intervenus massivement ces dernières années, et où nous continuons d'ailleurs. On a un évêque du Mexique, c'est une thématique dont on parle un petit peu moins en France. On sait que c'est un pays qui est gangréné par la violence, mais on n'imaginait pas, et d'ailleurs l'évêque le dit lui-même, dans le diocèse où il vient d'être nommé, il n'imaginait pas le niveau de violence auquel est soumise la population mexicaine. Et enfin, alors un profil un peu plus original, un prêtre qui était musulman, qui s'est converti et qui aujourd'hui, il est algérien, il travaille en Algérie, et du coup c'est un témoignage un petit peu inédit que nous vous proposons cette année.
Vous êtes intervenu de façon très importante au Proche-Orient, vous continuez, il y a de bonnes nouvelles quand même, hein, du côté du Kurdistan, les réfugiés commencent à quitter le Kurdistan et à revenir notamment dans la plaine de Ninive en Irak.
Oui, c'est quelque chose d'assez surprenant et très encourageant. On était habitué ces dernières années à avoir que des mauvaises nouvelles de la Syrie et de l'Irak. Ces deux pays qui étaient directement occupés, une partie du territoire par l'État islamique, avec le reflux ou en tout cas la perte du contrôle du territoire par cette organisation. On était plutôt sur une dynamique positive. En Irak, très clairement, la plaine de Ninive a été libérée. C'est là qu'habitaient la plupart des chrétiens irakiens qui avaient dû fuir au Kurdistan. Un tiers des chrétiens sont déjà rentrés chez eux. On n'imaginait pas que ça irait aussi vite, de manière aussi importante. Fin 2016, donc il y a un peu plus d'un an, seulement 1% des chrétiens imaginaient pouvoir rentrer chez eux. Donc pour la plupart, c'était fini. Et là, déjà un tiers des familles qui sont rentrées, et les autres, sont sur le point de le faire. Simplement, on doit les aider à reconstruire leur maison, à les rénover, à les réparer. Elles sont détruites ou partiellement détruites. Et là, il y a une certaine urgence, parce que si nous ne les aidons pas maintenant, d'ici quelques mois, là, pour le coup, ils perdront à nouveau l'espoir de pouvoir rentrer chez eux. On a fait des études très précises. Il faut en moyenne 6 000 euros pour la reconstruction de leur maison, et l'AED, l'aide à l'Église en détresse, s'est engagée à couvrir le tiers de ce montant, c'est-à-dire le gros œuvre, à peu près 2 000 euros, vous permettez à une famille chrétienne de rentrer chez elle.
Ça concerne combien de familles ?
Alors au total, il y a à peu près 25 000 familles chrétiennes qui ont fui, un quart ont quitté le pays tout de même, donc il en reste 18 000. Il y a déjà 6 000 familles qui sont rentrées et il reste 12 000 familles à accompagner. Alors certaines resteront au Kurdistan, à Erbil ou à Dohuk, dans certaines villes où ils ont fini par reprendre une activité, mais on peut imaginer que la plupart voudront rentrer chez elles.
Alors la Nuit des Témoins, c'est aussi rappeler celles et ceux qui sont otages et dont on n'a pas de nouvelles.
Oui, c'est un peu une innovation cette année. En général, on parlait on évoquait même très précisément le nom et une courte biographie des prêtres religieux, religieuses assassinés. Et cette année, on a dédié même cette 10e édition de la Nuit des Témoins, à tous ceux qui ont été pris en otage et dont nous n'avons pas de nouvelles, des prêtres, des religieux, des religieuses, certains depuis plusieurs années, certains dont on imagine qu'ils sont sans doute morts, mais comme nous n'avons pas la confirmation, l'idée, c'est de ne pas les oublier dans nos prières. Donc, on a préparé une stèle spécifique pour eux et on commence la Nuit des Témoins en leur rendant hommage.
3 intervenants donc pour cette 10e édition de la Nuit des témoins de l'AED. Parmi eux, Mgr Kyrillos William Samahan, archevêque copte catholique d'Assiout en Égypte, que nous avons entendu en ouverture d'émission. Assiout est le plus grand diocèse catholique d'Égypte, avec 250 000 fidèles. Les catholiques sont une toute petite minorité, comparée aux coptes orthodoxes, autour de 12-15%. Difficile d'avoir des chiffres précis des 100 millions d'Égyptiens. Ces dernières années, il y a eu un regain de violence contre les chrétiens. Depuis 2011, pas moins de 6 attentats, souvent perpétrés au moment des fêtes religieuses, ont frappé la communauté chrétienne d'Égypte, d'où les mesures de protection mises en place.
Toutes nos églises sont contrôlées par la police depuis quelques années, et les jours des fêtes, cette contrôle est plus intensif. Il y a aussi les militaires qui viennent avec leurs armes. Et autour de l'église, on ferme tout l'entourage, on ne permet à personne d'y passer sans savoir où il va ou qu'est-ce qu'il veut faire. Seulement, alors, c'est ouvert aux fidèles, à nos fidèles qui viennent. Les autres ne sont pas admis.
Est-ce que vous avez le sentiment, donc, d'être mieux protégé, notamment depuis l'arrivée du général Sissi au pouvoir?
Ça, c'est clair et net, tout le monde le sait. Et son attitude envers les chrétiens est complètement différente des autres présidents qui ne s'intéressaient pas. Bon, lui, il est président de tous les Égyptiens, sans distinction. Et le geste qu'il a fait la veille de Noël, et qu'il répète 3 ans de suite, d'aller à la cathédrale souhaiter la bonne fête aux chrétiens, et il parle spontanément de tout cœur, et vraiment ça montre qu'il est sincère.
Quand les coptes sont visés, quand les chrétiens sont visés en Égypte, on dit que c'est davantage pour déstabiliser l'État. D'abord, en priorité.
Les deux. Déstabiliser l'État, de montrer que l'État est incapable de protéger les citoyens. Mais de l'autre part aussi, les fanatiques musulmans, les extrémistes, ne veulent pas que les chrétiens restent en Égypte. Ça aussi, pour les terroriser, pour les obliger à s'en aller. Et quelqu'un l'a dit carrément, allez-vous-en. Nous voulons faire l'État islamique ici, et vous avez tous des visas pour le Canada et les États-Unis. Oui. On leur a dit non, jamais, on va rester ici, non, on ne va pas quitter, c'est notre pays.
Est-ce que vous avez le sentiment que le terrorisme recule, que l'influence de Daesh recule?
Oui, un peu, surtout que nous luttons maintenant contre le terrorisme, une guerre dans tous les sens, qui est menée par notre armée au Sinaï pour purifier le Sinaï de ces fondamentaux terroristes qui se sont infiltrés au temps de Morsi et qui sont protégés par des forces extérieures des pays étrangers qui donnent les armes, les financements et pour déstabiliser l'Égypte. Oui.
Parmi les attentats contre les coptes, il y en a eu un qui a été particulièrement tragique. C'était en Haute-Égypte, il y aura presque un an, au mois de mai prochain.
Oui, justement, le 26 mai, un quart de pèlerins qui allait visiter le couvent Abba Samuel dans le désert de Marara, près de Minya, entre Minya et Beneswif, et furent arrêtés sur la piste, qui n'est pas asphaltée d'ailleurs, et n'est pas contrôlée par la police parce qu'on ne peut pas aller partout. Et on lui leur a demandé de descendre tous, ils sont descendus du bus, et un par un, on leur a demandé de nier leur foi. Ils ont refusé. Parmi eux, il y avait des enfants, des petits-enfants qui ont refusé de nier la foi. Alors, ils étaient fusillés tous.
Pour vous, ce sont des martyrs de la foi?
Bien sûr. Comme justement ceux de la Libye aussi.
Outre autre intervenant de cette 10e édition de la Nuit des témoins de l'AED, Mgr Ramón Castro Castro, évêque de Cuernavaca, état du centre du Mexique où règne une grande violence. Pour cet ancien diplomate du Saint-Siège passé par l'Angola, le Mexique est le pays d'Amérique latine qui compte le plus grand nombre de prêtres et de journalistes assassinés. L'Église est en effet l'une des rares institutions à dénoncer la corruption étatique et la violence des cartels de drogue qui se disputent un marché de plus en plus fragmenté. 2007 a été l'année la plus violente avec 25 000 homicides, soit 69 par jour, sans oublier les disparitions, 28 000 pour la dernière décennie. En arrivant à Cuernavaca, Mgr Ramón Castro Castro était loin d'imaginer un tel niveau de violence.
Exactamente, yo fui obispo auxiliar de Yucatán y de Campeche, que son los dos estados más pacíficos de todo México.
Oui, exactement. J'ai été évêque auxiliaire du Yucatán, puis de Campeche, les deux états les plus pacifiques du Mexique. En mai 2013, quand j'ai été nommé par le pape François évêque de Cuernavaca, j'ai découvert une réalité très dure pour moi à comprendre. Tout de suite, j'ai commencé à visiter toutes les paroisses et à me rendre compte que les gens étaient blessés, qu'ils vivent dans la peur, que la violence, l'insécurité et l'impunité régnaient. Ça a été un coup dur pour moi et je me demandais comment vais-je aider tous ces gens. Ma pastorale devait être différente de celle du Yucatan. J'ai cherché le dialogue avec le gouvernement, mais malheureusement j'ai découvert que le gouvernement était lié à cette corruption et que ça n'était pas la bonne façon d'agir.
Intentamos entonces buscar otras formas. Por ejemplo,
on a essayé de changer les choses en organisant par exemple des marches pour la paix, pour éveiller les consciences et dire à tout le pays, nous souffrons, aidez-nous. Le deuxième personnage du diocèse est le vicaire général. Il a deux prêtres âgés. 30 policiers ont enfoncé la porte de leur maison et du parking. On leur a fait peur en cherchant de la drogue. Comment est-ce possible? C'est une façon de dire, taisez-vous, ne vous mêlez pas de ça. Quelques semaines plus tard, la roue de ma voiture a été dévissée de telle façon que si j'étais mort dans un accident de voiture, personne n'aurait su la raison. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas dialoguer et travailler avec le gouvernement. On ne peut que dire la vérité et passera ce qui se passera.
Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, de pouvoir, par exemple, être assassiné, hein, comme l'a été Mgr Romero pour d'autres raisons à une autre époque, d'être assassiné, par exemple, pendant que vous célébrez la messe?
Yo dudo mucho que esto pueda suceder porque si algo me pasara a mí.
Je doute fort que cela puisse arriver parce que s'il m'arrive quelque chose, il y aura une réaction forte de la population. Je peux vous dire que 80% de la population est prête à défendre son évêque. Mais je tiens à dire que je n'ai pas peur parce que je mourrai quand Dieu l'aura décidé et je crois en la vie éternelle. Je suis tout à fait conscient que je dis des choses qui ne plaisent pas au gouvernement et aux mafias, mais je sais que Dieu est avec moi et que je mourrai quand il l'aura décidé.
C'est un combat que vous n'imaginiez pas mener un jour. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous êtes décidé à mener ce combat.
Completamente decidido, porque es una vergüenza y una tristeza que un país tan rico como México.
Totalement décidé parce que c'est une honte et une tristesse pour moi de voir un pays aussi riche et de constater autant de pauvreté, des familles qui n'ont pas de quoi manger, des veuves et des personnes âgées seules et malades. Quel contraste avec la manière dont vivent les politiques. C'est une grande douleur, mais ça me donne du courage pour aller de l'avant.
Y eso me hace y me da el ánimo para seguir adelante.
Monseigneur Ramón Castro Castro, évêque de Cuernavaca, un des témoins de l'aide à l'Église en détresse.
Religion du monde. Geneviève Delrue.
L'agroécologie, en fait, les pratiques agricoles des parents existaient, mais les gens avaient tendance à abandonner en fait ces pratiques. Compte tenu de toutes ces situations, il a été décidé en fait de revenir un peu sur ces pratiques. Et là, du coup, ça demande un peu de temps à ces producteurs pour changer ce comportement.
Et là, le CCFD vous soutient effectivement à fond dans cette agroécologie.
Justement, le CCFD nous accompagne beaucoup dans ce sens-là. Et on est très très content vraiment de leur partenariat. Parce que des choses comme ça, tu peux avoir des idées. Si tu n'as pas vraiment un partenaire avec lequel échanger, non seulement sur les techniques, parce que l'échange, le moins, ce n'est pas seulement le moins financier, mais tout ce qui est information, formation, C'est tout ce qui peut nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Donc le CCFD est en train vraiment de nous accompagner dans ce sens et on est vraiment très contents de ce partenariat.
Ils sont 40 en France actuellement à venir eux aussi témoigner de leur travail, de leur engagement et du soutien financier, technique ou juridique qu'ils reçoivent de la part du CCFD Terre Solidaire. La période de carême est en effet le grand rendez-vous annuel du Comité catholique contre la faim et pour le développement. Stéphane Duclos de la direction Mobilisation citoyenne du CCFD.
Alors la campagne de carême du CCFD, c'est le temps fort pour notre association. Le CCFD Terre Solidaire a été mandaté par les évêques de France depuis son origine pour sensibiliser les communautés chrétiennes à la solidarité internationale et opérer une collecte à destination de cette solidarité internationale et qui lui sert notamment à financer un certain nombre de projets qui sont portés par ses partenaires.
40 partenaires donc sont actuellement en France. 40 comme les 40 jours de carême.
Alors oui, c'est très important. Le CCFD Terre Solidaire est une association qui est catholique et qui veut s'inscrire dans ce temps de carême. C'est pas anodin. Carême, on a l'habitude de dire que c'est un temps de jeûne, de prière et de partage. Très souvent, on s'imagine que le jeûne, c'est quelque chose de mortifère. En réalité, là, c'est quelque chose de très positif. Il s'agit, par le jeûne, de faire de la place. Et de faire de la place, pourquoi ? Pour s'ouvrir à autre chose. Et nous, ce qu'on propose, à travers la venue de nos partenaires, c'est de s'ouvrir à la rencontre. Et c'est de s'ouvrir à la rencontre avec des gens qui viennent d'horizons très lointains, avec des cultures différentes, qui sont confrontés à des problèmes qui peuvent à la fois nous paraître proches et très lointains, et qui tentent avec nous de trouver des solutions à ces problèmes. Donc on s'inscrit vraiment dans cette dynamique religieuse, avec aussi la volonté, à travers cette rencontre, de retrouver le visage d'un Christ qui s'est fait pauvre et qui s'est identifié aux plus pauvres.
Le thème cette année de cette campagne de carême 2018 du CCFD, avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire.
C'est un thème important parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui la question de la différence, c'est une question épineuse qui crée des tensions, qui crée des peurs. On peut effectivement vouloir se replier, on peut considérer que la différence est un danger, sauf que face aux défis auxquels nous sommes confrontés, au contraire, nous pensons qu'il faut la voir avec lucidité, mais aussi être capable de la voir comme une chance, une richesse et surtout une solution à ces défis. C'est vraiment ce que porte le CCFD à travers le partenariat. On rencontre des gens qui sont d'horizons complètement différents, avec des cultures différentes, et c'est dans le dialogue, dans le lien qu'on va tisser avec eux, dans la relation qu'on va tisser avec eux, qu'on arrive à trouver des solutions communes, parce que aujourd'hui, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sont des problématiques qui sont globales. Deux exemples très concrets, la question des migrations, qui ne peut pas avoir de réponse uniquement au niveau national, qui doit vraiment trouver des réponses à différents niveaux, à différentes échelles. Donc on doit nécessairement dialoguer avec toutes les parties prenantes de cette problématique, mais la question aussi écologique, et celle de la transition écologique et sociale, qui suppose là encore de pouvoir travailler avec un ensemble d'acteurs qui parfois sont très différents de nous et avec des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Mais si on ne va pas vers cette différence, si on ne l'intègre pas, si on n'est pas capable d'en tenir compte et d'aller à la rencontre de ces gens-là, on ne trouvera pas de solution.
Stéphane Duclos, vous travaillez à la direction de la mobilisation citoyenne au CCFD. Effectivement, dans cette campagne de carême, à travers donc tous ces rencontres, ces témoignages de partenaires, il y a toujours effectivement le mot, par exemple, plaidoyer qui revient.
Oui, alors, vous l'avez dit, je travaille pour la direction mobilisation citoyenne. Oui. Il faut savoir qu'au moment du carême, c'est tout notre réseau de bénévoles, 15 000 personnes, qui partout en France, se mobilisent pour réaliser des actions de sensibilisation, pour arriver à faire prendre conscience aux gens de ces enjeux liés à la solidarité internationale. Et dans un univers mondialisé, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, les défis, ils ne peuvent se résoudre qu'à différentes échelles. Dans un univers mondialisé, il est, à mon sens, essentiel de travailler à cette conscientisation pour que chacun, chacune, nous soyons capables d'assumer pleinement notre rôle de citoyen. Et ça, c'est aussi l'un des enjeux pour le CCFD Terre Solidaire à l'occasion de cette campagne de carême.
Stéphane Duclos de la direction Mobilisation Citoyenne du CCFD Terre Solidaire. Place à l'info. Après le flash, vous entendrez des témoignages d'Afrique, d'Asie et de Gaza. Et également l'évêque de Rouen, Mgr Jean-Paul Vesco, qui accompagne cette campagne de carême 2018 du CCFD Terre Solidaire.
Religion du monde,
Geneviève Delrue.
Ce n'est pas un problème pour moi de vraiment de travailler, même étant musulmane pratiquante, de travailler vraiment avec une organisation chrétienne. Et puis ça fait du bien aussi en fait de mieux connaître vraiment la religion des autres pour faciliter l'intégration. Parce que de toutes les façons, on est appelé à vivre ensemble, à faire tout ensemble. On ne se connaît pas très bien et du coup l'intégration ne sera pas facile. Donc moi j'ai du respect vraiment pour la religion chrétienne.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de Religion du Monde. Et l'on poursuit avec la campagne de carême du Comité catholique contre la faim et pour le développement qui, comme tous les ans à cette période de l'année, invite 40 représentants d'associations et d'ONG qu'elle soutient financièrement à venir témoigner dans plusieurs villes de France afin de récolter des fonds. Beaucoup des partenaires du CCFD Terre Solidaire travaillent dans le domaine de la souveraineté alimentaire. C'est le cas de la COPAGEN, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, un large réseau auquel appartient la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée-Conakry, représentée par Aissata Yattara. Un des combats de la COPAGEN, la maîtrise des ressources génétiques végétales avec toute une lutte juridique contre la privatisation du vivant, c'est-à-dire des semences par les firmes internationales. Aissata Yattara raconte l'histoire d'une semence de coton qui avait été vantée auprès des petits producteurs comme la semences pouvant les faire sortir de la pauvreté, ce qui s'est avéré faux.
En fait, on a constaté le contraire, parce que la COPAGEN sous-régionale avait quand même mené les études d'impact par rapport à cette semence. Mais au fil des années, le réseau a constaté que les paysans, au lieu de s'enrichir, s'appauvrissaient d'année en année à cause de l'endettement, parce que c'est des semences qu'il faut acheter chaque année. Donc, on ne peut pas vraiment échanger les semences entre nous. Et chaque année, il fallait vraiment acheter les semences. Donc, du coup, ça coûtait énormément d'argent aux producteurs. En plus, les produits phytosanitaires en fait, qu'on donnait à ces producteurs-là, aussi, au lieu de contribuer à détruire en fait, les insectes, et il a été constaté la résistance en fait, de ces insectes face à ces différents produits. Tout ce que nous essayons de faire, en fait, nous sensibilisons. On essaie, en fait, de prévenir les gens de ne pas prendre les semences n'importe où et de ne pas prendre les semences n'importe comment.
Il y a également la question de l'agroécologie. Oui. Vous en êtes où, là?
Là, franchement, au niveau de la Guinée, on est en train de démarrer. C'est vrai que l'agroécologie, en fait, les pratiques agricoles des parents existaient. Mais les gens avaient tendance à abandonner en fait ces pratiques. Compte tenu de toutes ces situations, il a été en fait décidé en fait de revenir un peu sur ces pratiques. Et là, du coup, ça demande un peu de temps en fait à ces producteurs pour changer ce comportement.
Et là, le CCFD vous soutient effectivement à fond dans cette agroécologie.
Justement, le CCFD nous accompagne beaucoup dans ce sens-là. Et on est très, très content vraiment de leur partenariat. Parce que des choses comme ça, tu peux avoir des idées si tu n'as pas vraiment un partenaire avec lequel échanger, non seulement sur les techniques, parce que l'échange, le moins, ce n'est pas seulement le moins financier, mais tout ce qui est information, formation. Et puis, vient s'ajouter les moyens financiers. C'est tout ce qui peut nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Donc, le CCFD est en train vraiment de nous accompagner dans ce sens et on est vraiment très contents de ce partenariat.
La souveraineté alimentaire et le retour à l'agroécologie, c'est la mission d'Ouaki Nord-Kivu en République démocratique du Congo. Ce mouvement soutenu par le CCFD Terre Solidaire défend depuis plus de 20 ans l'agriculture familiale et depuis peu l'agroécologie. Son chargé de programme, Théogène Cambéré, a fait depuis longtemps le constat, en effet, que les mauvaises pratiques agricoles entraînent des déplacements de population, le départ des hommes, parfois dans des groupes armés, dans cette région politiquement très instable et des structures la cellule familiale. Le CCFD Terre Solidaire aide Ouaki Nord-Kivu à se déplacer et à rencontrer d'autres associations paysannes.
Toutes ces rencontres nous renforcent techniquement. Concrètement, l'agroécologie, c'est disons un modèle agricole qui utilise des techniques qui protègent le sol, des techniques qui permettent l'association de l'agriculture et l'élevage, des techniques qui mobilise les ressources humaines, l'homme et la femme, à travailler ensemble pour produire, fabriquer même des engrais organiques, les engrais comme les composts solides, les composts liquides, les arbres fertilisants, et même des techniques, par exemple comme l'installation des terrasses. Tout cela, ce sont des techniques qui protègent l'environnement.
La problématique foncière, elle est quand même très forte en République démocratique du Congo, notamment avec les mines, l'exploitation du sous-sol.
Tout à fait. La question de... C'est vrai, dans la législation congolaise donne privilège aux exploitations minières. Non seulement ça, mais aussi les grands exploitants, l'élevage, mais aussi les parcs. Tout cela conquérasse l'agriculture.
Est-ce que le CCFD vous aide à faire des plaidoyers pour justement vous donner des outils juridiques pour défendre la question foncière?
Oui, le CCFD nous accompagne dans les programmes de bonne gouvernance dans les entités administratives décentralisées. Et là, nous essayons d'organiser des activités qui nous permettent de faire rencontrer les paysans avec les responsables politico-administratifs et aussi faire rencontrer les paysans avec les fermiers, les grands concessionnaires. Cet accompagnement du CCFD facilite à ce que nous puissions aborder la question foncière. Et là, l'élément qui est important, c'est amener, influencer et les décideurs et les grands concessionnaires de donner des terres à cultiver aux paysans.
L'aide juridique, l'assistance au plaidoyer, le lobbying, c'est ce qu'attendent du CCFD Terre Solidaire, l'association des femmes transformatrices de poissons de Barni, une ville située à 35 km de Dakar. Ces femmes sénégalaises appartiennent au réseau Womin et Lumière Synergie pour le développement. Elles militent contre l'installation de la centrale à charbon. Pour ces travailleuses indépendantes, cette centrale menace leurs revenus et la santé des riverains. Fatou Samba est la présidente de l'association des femmes transformatrices de poissons.
La centrale,
oui.
Là où on l'a installée, c'était prévu pour des lotissements qu'on avait donnés aux victimes de l'érosion côtière qui devaient s'y installer. Il y a aussi les femmes transformatrices qui travaillent aussi dans cette zone. Donc si la centrale s'implante, les femmes vont perdre leurs emplois et aussi la population va perdre aussi les terres qui ont été allouées aux victimes de l'érosion côtière. Donc nous, population de Bagny, nous sommes victimes de l'érosion côtière parce que là où je vis, je suis à 0 mètre de la mer et j'étais à 100, 200 mètres de la plage. Mais maintenant, avec les changements climatiques, l'eau est remontée jusque juste parce que la moitié de ma maison a été détruite par la mer. Et nous savons que c'est à cause du changement climatique que c'est devenu assez fréquent que la mer soit qu'on a de grandes houles qui va détruire nos maisons.
Maintenant, vous avez, madame, les pieds dans l'eau.
Je suis les pieds dans l'eau parce que toujours je l'ai dit, moi, je j'ai pas besoin d'aller dans un hôtel et dire je veux les pieds dans l'eau parce que je vis dans les pieds dans l'eau. La moitié de ma maison et d'autres maisons ont été détruites par la mer. Donc c'est la cause de notre combat. Nous, femmes transformatrices, nous, habitants de Barni, surtout habitants de Barni qui vivent auprès de la mer.
Mais cette centrale, elle est quasiment finie. Mm-hmm. Donc votre combat, il est pratiquement perdu.
Non, ce n'est pas encore perdu parce que nous savons ici en France qu'il y a des centrales qui vont être détruites d'ici des années. Et on a vu aussi d'autres pays qui ont détruit des centrales. Donc, on a lutté contre son installation et on n'a pas réussi, mais on va encore lutter contre sa démolition.
Pour qu'elle ne fonctionne jamais.
Pour qu'elle ne fonctionne jamais, parce que quand il fonctionne, même si nous habitons là-bas, on va être pollués.
Le CCFD, vous êtes comment dans cette affaire
Non, pour le moment, par exemple, CCFD, peut-être il est en train d'aider Women, qui va aider Lumière Synergie, que Lumière aussi va aider les femmes à faire leur plaidoyer, à faire leur mobilisation pour dire non à cette centrale.
Alors, aider au plaidoyer, ça veut dire quoi? Ça veut vous donner, vous apprendre tous les arcanes, j'allais dire, du droit?
Oui, même si aussi ils peuvent taper sur la table des dirigeants, parce que nous savons que c'est une grande organisation. Donc, par son pouvoir, il peut agir sur les propriétaires de cette centrale-là. Parce que nous savons, par exemple, que EDF de la France, l'administrateur général qui se trouve à la CES, c'est un membre de EDF.
Parmi les 40 partenaires de la campagne de carême du CCFD Terre Solidaire, une jeune femme birmane et bouddhiste, Papa Fio, de l'association Kalayana, Mita Foundation, KMF promeut un bouddhisme socialement engagé à travers divers programmes, notamment agricoles, mais surtout de dialogues interethniques et interreligieux, dans un pays où des années de propagande et de guerre civile ont créé des fossés entre les nombreuses communautés ethniques. Papa Fio, traduite par Marie Laferranderie.
Foreigners like people, they are doing at the state level peace process.
On travaille aussi sur la réconciliation sociale au niveau local pour permettre aux populations de prendre conscience de ces valeurs-là. Et on peut aller dans les villages, souvent les villages nous appellent pour raconter des histoires.
Quand vous parlez de réconciliation locale, c'est réconciliation entre qui entre les musulmans et les bouddhistes?
Because we if the world see Myanmar is about the Rohingya, but we also have an.
C'est vrai qu'on parle beaucoup des Rohingyas, mais il faut pas oublier que notre pays a souffert de la plus longue guerre civile dans le monde et on est toujours en train d'essayer de régler ce problème-là. Donc, on travaille au niveau local comme au niveau étatique sur ces problèmes-là, mais on est encore témoin de groupes ethniques qui se détestent, qui sont très violents les uns envers les autres, d'un point de vue ethnique surtout, mais aussi d'un point de vue religieux un peu, c'est vrai. Il y a encore beaucoup de stéréotypes sur les divers groupes ethniques qui circulent, et donc il faut d'abord qu'on travaille sur ce niveau-là social, se réconcilier, apprendre à se connaître, une vraie réconciliation sociale.
Alors, en tant que bouddhiste, quel regard portez-vous sur la crise des Rohingyas?
The issue is very complicated.
Cette histoire est un problème très compliqué. C'est pas seulement un problème de religion, c'est aussi un problème de citoyenneté, un problème politique. Il y a beaucoup de parties prenantes dans ces événements-là, et donc c'est assez compliqué à expliquer.
Et alors justement, vous, comment vous avez fait à ce moment-là? Quelle a été votre position?
So we cannot do much, but we try to work with the people there.
On ne peut pas faire beaucoup de choses. On a essayé de travailler avec des personnes bouddhistes et des personnes non bouddhistes, mais on ne peut pas accéder à ces zones de conflit.
Like I'm not local, and when even we go to the city,
c'est difficile d'accéder à ces villes, et même quand on parvient à s'y rendre, on s'y sent étranger. Et c'est vrai qu'il y a une véritable disparité entre la presse internationale et la presse locale. Donc c'est difficile d'avoir une idée sur ce qui se passe réellement sur le terrain.
Nabila Merwan Alzaem est âgée de 31 ans. Elle est la coordinatrice de l'association Culture et Pensée Libre, une association laïque créée dans la bande de Gaza en 1991 qui intervient auprès des jeunes et promeut le développement de la société civile. Cette association reçoit le soutien du CCFD. C'est la première fois que Nabila sort de Gaza. Comment vit-elle cette arrivée en France? Nabila, traduite par Amal Guyot, nous répond avec un large sourire.
Je suis très 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 contente parce que c'est pour la première fois de ma vie que je peux sortir. Je sens comme si j'étais un oiseau qui était captivé dans sa cage et qu'on m'a ouvert la cage et là je peux partir et je suis très émue.
D'être à Paris là, ça vous fait quoi?
La première fois quand je viens à Paris, ça me fait une énorme émotion parce que c'est pour moi, c'est une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Là, ici, il n'y a pas de manque d'électricité, il n'y a pas de manque d'eau. Je me sens vraiment libre.
À quoi rêve-t-on quand on habite Gaza depuis toujours et qu'on n'est jamais sorti?
En fait, mon rêve, c'est premièrement qu'il n'y aura plus de blocus, qu'il n'y aura plus d'autorisation de sortie, de rentrée, qu'on soit vraiment un peuple qui vit bien sa vie. J'ai envie que les jeunes ne rêvent pas que de partir, j'ai envie que les jeunes rêvent de rester, de construire ce pays. Gaza, c'est une très très belle ville, il y a tout là-dedans et moi j'aimerais bien que ça redevienne une ville comme on connaît, parce que là, Gaza c'est une très jolie ville, le peuple il est très très sympa, il est très aimable, du coup je voudrais bien que ça soit la paix dans Gaza.
L'association Culture et Pensée Libre que vous représentez a été créée par 5 femmes en 1991. Pourquoi cette association s'est créée à ce moment-là?
Cette association a été créée juste pour protéger les enfants, leur créer un espace pour eux, pour pouvoir protéger aussi leur identité, éviter toutes sortes de violences.
Toutes sortes de violences, est-ce que vous pouvez préciser?
Il y a toutes sortes de violences, si vous voulez, je peux vous dire, c'est avec les paroles, la violence corporelle, les violences économiques, politiques, même familiales. Aussi de mariage très tôt, des
mariages forcés.
Il y a aussi les viols, les attouchements, tout ça.
Société violente, la société de Gaza.
C'est pas vraiment une société très violente, mais par contre la situation qu'on vit, la situation politique, la situation économique, tout ce qu'on vit, il n'y a pas d'argent, du coup ça amène la violence.
Religion du monde, Geneviève Delru.
La question des migrants, un des grands plaidoyers de l'Église et du CCFD Terre Solidaire, est portée dans cette campagne de carême par Mgr Jean-Paul Vesco, frère dominicain et évêque depuis 2013 du diocèse de Rouen en Algérie. Les paroissiens de cet évêque, qui entend pratiquer la pastorale de la main tendue, pour reprendre ses propres mots, viennent la plupart d'Afrique subsaharienne. Parmi eux, des étudiants, des migrants légaux et illégaux.
Rouen est sur un des chemins de migration vers l'Europe, en passant par le Maroc. Il y en a d'autres. C'est constitué toute une organisation humaine. Nous avons au début vu arriver quelques hommes qui se cachaient un peu, c'était un peu des fantômes. Et puis au fil des années, ils se sont installés, puis on a vu arriver quelques femmes. Et puis maintenant, c'est beaucoup d'enfants. J'ai quitté le diocèse pendant 2 ans, je suis revenu en 2013 comme évêque. J'avais quitté fin 2010 et j'étais frappé justement de l'arrivée de toutes ces femmes. Et toutes étaient enceintes. Et c'était pour moi un choc. Arrivant début 2013, en janvier, je fais un rapide calcul, je regarde et je me dis que dans l'année, il allait simplement parmi les migrants que nous connaissions naître au moins une centaine d'enfants. Qu'est-ce que nous allions faire? Qu'est-ce qu'allaient devenir ces enfants? C'était une vraie question et ça nous a mis en marche, vraiment.
Des femmes enceintes, seules?
Alors non, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des femmes, rares sont celles qui sont arrivées enceintes. Simplement, être en migration, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Alors ils se disent aventuriers, mais en fait, c'est des aventures qui sont humainement très complexes et très périlleuses. Mais mettre une femme en migration, c'est encore beaucoup plus compliqué que d'être un homme en migration. C'est véritablement, j'allais dire, je ne sais pas si le mot est adapté, mais c'est vraiment le maillon faible de cette grande chaîne de la migration qui est aussi une chaîne économique, parce qu'un migrant, c'est de l'argent pour certains. Et les femmes en migration, il y a une exploitation des femmes terrible. Et donc, en fait, une femme ne peut pas vivre en migration, ne peut pas vivre à Oran, tout simplement, si elle n'est pas avec un homme, si elle n'est pas protégée par un homme. Et pour garder un homme, dans la plupart des cas, il faut lui donner un enfant. Et vraiment lui donner, parce que cet enfant, on ne sait pas bien ce qu'il deviendra après. Il repartira vraisemblablement au pays, mais repartira-t-il dans la famille de la femme ou du mari? C'est pas sûr, parce que c'est des couples qui, dans la plupart des cas, ne durent pas. Et ça, c'est une vraie question. Quand je suis arrivé, on s'est dit, mais que vont devenir ces enfants?
Ces femmes sont des migrants économiques?
Alors, pour la plupart des migrants que nous connaissons, il y a beaucoup de personnes qui viennent du Cameroun et d'autres du Nigeria. Il est difficile, je pense, qu'entre migrants économiques ou réfugiés politiques, il y a d'autres catégories. D'abord, les migrants partent, émigrent, en général avec un rêve en tête, des fantasmes, avec le rêve d'une vie meilleure, ça c'est sûr, et c'est vrai pour la quasi-totalité des hommes. Pour les femmes, il y a d'autres causes, et il y a notamment, je connais beaucoup de femmes qui ont pris le chemin de la migration, non pas pour chercher un avenir meilleur, mais pour fuir, tout simplement, pour fuir une situation familiale insupportable, pour fuir, au point de laisser sur place, d'abandonner, de quitter, de se priver d'enfants sur place. J'ai énormément de visages en tête, parce qu'en fait, Je ne suis pas un spécialiste de l'immigration, nous ne sommes pas des spécialistes. Pour nous, les migrants, ce sont des personnes, et c'est toute la différence. Les migrants, ce sont des visages, ce sont des histoires, et des histoires qui sont souvent bouleversantes, qui sont déchirantes. J'ai beaucoup d'exemples à donner, mais je me souviens d'une personne qui, à 15 ans, se retrouve, est enceinte. Une famille, le père était pasteur protestant. Enceinte à 15 ans, donc ce sont ses parents qui ont pris soin de ses enfants. Et puis après, elle se marie avec un homme, en fait, elle ne se mariera pas vraiment, elle aura deux enfants. Et puis elle me dit, mon mari est mort de maladie professionnelle. Et je lui dis, faisait quoi votre mari? Il était militaire. Mais voilà, donc il a été simplement tué dans le Sahel, dans les combats. Et puis... ils n'étaient pas mariés, donc rien pour vivre. Donc les deux autres enfants sont encore hébergés par les parents. Et puis tout d'un coup, elle rencontre une amie qui lui dit « Mais tu sais, en Algérie, on peut gagner de l'argent. » Alors elle rassemble le peu d'argent qu'elle avait et qu'on lui demandait pour partir en migration avec son amie. Évidemment, elle confie cet argent à cette amie, elle t'amènera 7. L'amie disparaît avec l'argent, évidemment. Et cette femme a été vendue sur le chemin. Elle a été vendue pour 100 euros, pour 150 euros, et vendue avec quelqu'un qui... Et elle assistait en direct aux négociations sur elle, mais enfin quand même, tu vas pas me la vendre 150 euros, t'as vu comment elle est. Et elle était là, elle était dans le désert. Elle a atterri finalement à Oran dans ce qu'on appelle un maquis, qui sont en fait des espèces de lieux où il est possible de boire, de manger, et les femmes sont là. Les femmes, on appelle ça un décor. Voilà, elles sont là pour le décor et elles sont là pour faire vendre de l'alcool et puis aussi évidemment de la prostitution. Cette femme, elle s'est échappée, elle est arrivée chez nous et comme par hasard, elle était à nouveau enceinte parce qu'elle avait été abusée. Et des exemples comme ça, on en a tellement.
Est-ce que ces histoires de vie, ces visages, ont changé votre approche de la migration?
Oui, complètement. Ça a changé mon regard. Non pas sur les grandes réflexions et les grands enjeux de la migration, parce qu'il y a des grands enjeux économiques et politiques, mais sur les personnes qui les vivent. Et simplement, le regard change quand on se dit, quand on rentre en relation et qu'on se dit « cette personne, ça pourrait être moi ». Voilà. Et tant qu'on ne s'est pas dit ça, tant qu'on ne s'est pas dit « ce migrant, cette personne, ça pourrait être moi », alors on peut avoir des grands avis sur les causes et sur les solutions, mais cet avis sonnera un peu faux. À un moment, il m'arrivait même, comme prêtre, comme évêque, de prêcher à des migrants, et je prêchais faux. Ça sonnait faux parce que je m'adressais à un groupe de personnes. Maintenant, c'est plus possible. Simplement, je ne peux plus, même si j'ai devant moi des personnes en migration. D'abord, je ne peux plus dire ce thème de migrant. Il est insupportable parce qu'il est, il qualifie, en fait, il disqualifie. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui sont en migration et chaque personne est différente et chaque personne a son histoire intime, même si toutes ces personnes sont ensemble sur un même chemin, dans un même rêve, et qui tournent souvent au cauchemar.
Qu'est-ce que vous disiez que vous ne dites plus?
Oh, j'évite de donner des leçons. Mais j'évite de donner des leçons, j'évite de parler de leur vie. Je parle avec chacune, je parle comme je peux, mais oui, je crois que j'évite d'avoir des avis trop vite faits. Alors après, on travaille avec chacune, mais c'est le quotidien de la vie. C'est que simplement, je m'adresse à ces personnes comme je m'adresse à chaque être humain, avec son histoire, sa spécificité, sa valeur infinie. La migration, c'est d'abord un énorme gâchis humain. C'est des jeunesses, c'est des intelligences qui sont quand même largement perdues et gâchées, parce que même ceux qui réussissent à passer, ils n'ont pas encore réussi leur vie.
Puis ils ne peuvent plus rien donner à leur pays.
Alors maintenant, c'est ce qui change un petit peu, c'est qu'en fait, l'Algérie, pour ce que je vois, pour une part, l'Algérie devient aussi un pays d'immigration et pas seulement d'émigration ou de transit. Et maintenant, alors effectivement, on voit des hommes et des femmes, des jeunes, qui arrivent à travailler de façon illégale en Algérie et qui, à défaut de servir leur pays, servent au moins leur famille et peuvent envoyer de l'argent. Mais c'est vrai qu'on a du mal à penser, enfin, que Il y a bien sûr une responsabilité, on culpabilise un petit peu les pays d'accueil en disant il faut accueillir, mais je pense qu'il faut vraiment fortement interpeller les pays d'origine, parce qu'en fait, ces migrants sont simplement une fine écume d'un malaise de jeunesse qui n'arrive pas à trouver sa place, qui n'arrive pas à trouver son avenir dans des pays qui n'ont pas... Enfin, et la pauvreté de ces pays, l'absence de richesses naturelles n'explique pas tout. Et c'est ce en quoi, puisque nous parlons du CCFD et de sa campagne, c'est ce en quoi je salue l'attitude de, et je suis heureux, fier que l'Église catholique ait des organismes comme le CCFD, comme le Secours catholique, pour travailler aussi aux causes de ces immigrations. Et ces causes ne sont pas simplement, même pour les migrants économiques, les causes ne sont pas simplement économiques. Et c'est pour ça que cette distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques, cette distinction, elle est un peu grosse, il faut y regarder de beaucoup plus près. Il y a beaucoup de politique dans l'immigration économique. Pour nous, c'est un énorme dilemme tout le temps. Évidemment que si on peut parler, si on est interrogé, on va mettre en garde, on va... Bien sûr, mais souvent, c'est pas comme ça que les choses se passent. Au fond, maintenant, quand quelqu'un vient de me voir en disant je vais partir, et quand la décision est prise, eh ben, je bénis et je prie pour cette personne. Et il y a une forme d'absence de jugement, parce que je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à leur place.
Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque de Rouen, qui accompagne la campagne de carême du CCFD Terre Solidaire. C'est la fin de Religion du Monde. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émission. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous.